Alors je vais vous faire rêver, il fait 0 degré en ce moment sur Mars, moins 90 la nuit. On est bien là, non, au frais. On est toujours avec notre invité, l'astrophysicien planétologue Sylvestre Maurice. Dites-nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire de tempête martienne qu'on a entendue dans le journal de Sophie Delpont?
Oui, c'est Caroline Fraissinet qui en parlait et qui est justement une des chercheuses sur le rover Curiosity. Et ça arrive de temps en temps sur la planète Mars, à l'échelle carrément de la planète, se développe une tempête de poussière, des tout petits grains. Alors, on n'est pas comme dans un film Hollywood que certains ont vu sur Mars, hein, ça ne va pas déplacer des gros cailloux, c'est simplement, c'est des cailloux de la taille du micron, hein, c'est presque du talc, qui se lèvent lentement dans l'atmosphère, qui vont obscurcir la surface. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec le rover Curiosity, dont parlait Caroline Fraissinet, on est à l'intérieur de la tempête. C'est un rover qui trouve son énergie dans du plutonium. On n'a pas de panneau solaire et donc il a pu vivre. Sinon, il aurait fallu l'éteindre, comme ce fut le cas, par exemple, pour Opportunity. Il a vécu de l'intérieur cette tempête et on a vu le ciel s'obscurcir. Nos temps de pause, quand on prend des images, s'allonger. Voilà, c'est une tempête à grande échelle. Il y a une météo aussi à la surface de Mars, quoiqu'il y ait peu d'atmosphère, hein, puisqu'on va parler d'un centième de la pression terrestre. Mais ça suffit pour faire cette météo qui varie avec le temps, qui se répète. De temps en temps, il y a des événements turbulents, des tempêtes de sable ou d'autres variations de température.
Mais alors, si la tempête a lieu en ce moment, on risque pas de la voir ni à l'œil nu, ni à la lunette ce week-end pour la nuit des étoiles. Parce que, voilà, on rappelle que Mars est donc ce week-end à 57 millions et quelques de kilomètres de notre planète. Mais avec le décalage lumière, si j'ose dire, si on calcule par rapport à sa distance et à la vitesse de la lumière, la planète qu'on regarde à l'œil nu, qu'on regardera ce week-end pour la nuit des étoiles, elle a déjà combien d'années?
Oh non, c'est pas 57 millions. Non, c'est pas. Et elle est moins loin
c'est
que
pas
le Soleil.
Comme pour les étoiles.
Non, mais elle est moins loin que le Soleil.
D'accord.
Le Soleil est à 150 millions de kilomètres. Ça fait 8 minutes lumière. 57, non, ça fait 2 minutes à quelques.
Donc
elle est au plus proche. Elle est. Ça fait 3 minutes, je crois. Elle est au plus proche en ce moment. Quand on est tous les deux du même côté du Soleil, elle peut être très très proche de la Terre, donc 57 et quelques millions de kilomètres. Puis quand elle est de l'autre côté, on se retrouve avec 150 entre la Terre et le Soleil. Et puis l'autre partie de l'orbite de la Terre, etc. Ça fait 350 millions de kilomètres. Donc ça varie. Elle en est très très brillante. D'ailleurs, pour ceux qui se souviennent, il y a quelques jours, on a vécu une très très belle éclipse, hein, qui était super pour ceux qui ont eu de la chance de pas avoir de nuages. Et on voyait au moment de l'éclipse très très bien Mars, juste à côté justement de la Lune éclipsée dans l'ombre de la Terre. Et alors pour couper quand même à toutes ces rumeurs qui traînent sur le réseau. Non, la Terre, la Mars, même très près, n'a pas la taille de Mars, hein, de la Lune. Mars reste dans le ciel, un tout petit point, une petite tête d'épingle, très rouge, très brillante. Ça reste très très lointain. 57 millions de kilomètres, c'est quand même beaucoup.
Alors, il y a une météo sur Mars, nous disiez-vous, et peut-être que bientôt, on aura la météo de Mars dans notre iPhone, puisqu'on se demande toujours si Mars est habitable. Sauf qu'on est passé d'un moment où on se demandait si Mars était habitable à... aujourd'hui, on parle à peine de traces de vie. Alors, est-ce que c'est de mauvais augure pour les rêveurs ?
Alors, non. Déjà, l'habitabilité, c'est une excellente nouvelle. C'est une des grandes découvertes des trois dernières années, surtout du rover Curiosity, mais s'en est mêlé aussi beaucoup Mars Express, beaucoup Maven. Plusieurs véhicules ont fait cette découverte. Habitable, ça veut dire qu'il y a toutes les conditions physico-chimiques dans le passé pour que la vie se développe. Globalement, dans le passé, il y avait de l'eau liquide, hein, encore une fois. L'eau liquide est au cœur de la recherche martienne. Cette eau liquide, c'est un solvant d'une chimie bien particulière qu'on appelle la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Or, vous savez que tout ce qui est vivant, vous êtes fait de carbone, et puis tout le monde dans ces pièces sont faits de carbone. Toutes les plantes, tout est fait de carbone, d'azote, d'oxygène, de phosphore, de soufre, on va appeler ça, moi j'appelle ça les schnops, ça je les mets toutes ensemble. Et ces schnops ont besoin pour s'associer, parce que si vous avez un carbone à droite et puis un hydrogène à gauche et un oxygène un peu plus loin, pour s'associer, il leur faut cette eau liquide. Donc c'est le solvant. De l'eau liquide qui est pas trop basique, pas trop acide, qui n'est pas salée, éventuellement, à la différence de ce qu'on a parlé tout à l'heure. Et donc, tout ça ensemble fait qu'on avait une eau, je dirais, douce, qui était en surface de Mars il y a 3,7, 3,8 milliards d'années. Il y avait des réserves d'énergie, ça c'est un peu plus compliqué à mettre en évidence. Il y avait ces éléments comme les schnops, hein, et puis même des molécules organiques, et le hasard fait que dans votre interview précédente, vous avez eu la personne qui a fait la découverte, Caroline Fraissinet, alors qu'elle était étudiante, maintenant elle est chercheuse, des premières molécules organiques sur Mars, du chlorobenzène. Et donc, vous mettez tout ça ensemble, on a déclaré que Mars fut dans le passé habitable. C'est une énorme découverte. Pourquoi ? Parce que moi, quand il y a 3-4 ans, vous m'auriez posé la même question, je dis, mais non, mais une planète habitable, il n'y en a qu'une dans le système solaire, c'est la Terre. Et elle est restée est habitable, elle est devenue habitée. L'habitabilité, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Elle est nécessaire pour le développement de la vie. Et ça y est, c'est prouvé sur Mars. Alors maintenant, je vais pas faire une statistique, mais j'ai 8 planètes dans le système solaire, 4 grosses, 4 petites, on le sait très bien. Je peux dire qu'il y en a 2 qui, au même moment, étaient habitables. Alors que d'ailleurs, quand je regarde l'univers maintenant et toutes ces étoiles que je vois la nuit, hein, je vous rappelle que ce sont des soleils, et puis telle étoile a 3 planètes, telle étoile en a 5, telle étoile en a 2, etc. Il y a des milliards de planètes dans l'univers. Des milliards de milliards, d'accord, hein, dans notre galaxie, la Voie lactée, il y a déjà 200 milliards de soleils. Donc vous mettez des planètes sur peut-être la moitié, si vous voulez, et puis des galaxies comme la nôtre, il y en a 100 milliards. Et donc, maintenant, je peux dire, grâce à cette découverte de l'habitabilité de Mars, qu'il y a probablement des milliards de planètes habitables dans l'univers. Mais pas forcément habitées. La question, c'est comment passer de l'habitabilité à la vie. Ben ça, c'est quelque chose qu'on ne sait peu. On ne sait pas bien comment tout ça démarre, comment cette chimie organique se met en place quand elle est possible, et elle devient si complexe qu'elle est une preuve de vie. On va étudier ce lien très ténu qu'on a du mal à trouver encore une fois sur Terre parce qu'on n'a pas notre mémoire, on a effacé tout ça. Et puis, cette transition, elle a au moins besoin de quelque chose, c'est de temps.
Alors, c'est ça qui est important. Donc du temps et peut-être un peu d'argent. Ça peut être celui d'Elon Musk qui dit pouvoir rendre l'atmosphère de Mars propice au développement de la vie. Donc est-ce que l'argent fait tout ?
Non, l'argent ne fait pas tout en matière d'exploration scientifique et d'exploration spatiale, mais très clairement contribue à notre bonheur quand même. Alors, première chose sur l'argent, toutes ces sondes dont on parle, les 8 sondes en ce moment qui sont sur Mars, la 9e InSight qui arrive, les 4 en construction pour 2020, c'est beaucoup d'argent. Soyons clairs, l'unité de compte est plus près du milliard que du million. Je veux dire, c'est des sondes qui valent très très cher. Et c'est important parce que il faut en avoir conscience. Ça veut forcément dire que c'est une décision politique. Ce sont nos politiques qui prennent ces décisions. Ça veut dire que ce sont des pays riches qui peuvent se le permettre. Et les pays riches, on n'en compte pas beaucoup. Hein, on compte les États-Unis, l'Europe, je mets l'Europe dans son ensemble, le Japon, l'Inde, la Chine et
les Émirats arabes unis, nous disiez-vous.
Les Émirats arabes unis, c'est ponctuel, ouais. et les Russes en général. Donc, peu de pays, beaucoup d'argent, une décision politique, parce que tout le monde pense que c'est important de cette connaissance, en quelque sorte, de nos origines. Donc, il faut de l'argent. Une fois qu'on a de l'argent, l'argent permet de développer des technologies. Et les technologies pour aller dans l'espace commencent évidemment par quitter le potentiel gravitationnel de la Terre, donc c'est la fusée. Et donc là, on a un marché ultra concurrentiel, on est des champions avec Ariane, et puis les Américains ont été des champions, les Russes, là pour le coup, restent des grands champions avec leurs fusées, puis on a des petits nouveaux qui arrivent, comme SpaceX, qui viennent un peu bouger le système, qui est plutôt une bonne chose, ça fait peur à tout le monde, mais c'est pas SpaceX, c'est pas Elon Musk qui a inventé une fusée, hein, honnêtement, simplement, c'est même pas lui le premier à faire une fusée qui se pose, mais il arrive avec des structures légères, des coûts de structures très faibles, il a des bonnes idées, il est assez génial, il pousse un peu le système. Voilà. Donc, mais il faut pas qu'une fusée pour aller sur Mars, je vous rappelle.
Mais déjà, il faut combien de jours pour aller sur Mars?
Alors,
fusée,
justement,
c'est pas du tout le même
genre
de fusée que pour la Lune.
Oui, voilà. Alors, ça peut être la même fusée, au moins pour aller en orbite terrestre et construire un véhicule. Mais pour la Lune, il faut 3 jours. On est à 380 000 km, c'est facile. Là, on en a déjà parlé, c'est des centaines de millions de kilomètres qu'il va falloir parcourir.
Donc, combien de jours?
Alors, à 20 km par seconde, vous pouvez faire le calcul, mais on est à peu près dans les 7-8 mois.
Ah, il faut des bonnes chaussettes de contention, alors.
Ouais, non, et justement, c'est ça la difficulté, c'est qu'il nous faut une fusée, mais il nous faut aussi un véhicule interplanétaire. Un véhicule qui nous emmène sur Mars. Et puis, arrivé sur Mars, il va falloir freiner, descendre à la surface. On descend à la surface de Mars. Donc ça, c'est une complexité incroyable. On l'a vu avec les sondes. Mais une fois qu'on est sur place, il faut revenir. Hein, on pouvait me poser la question. Il n'y a pas d'aller simple.
Ah oui, c'est pas un aller simple. C'est pas pour aller
mais
vivre
non,
dans une cité telle que la rêve Elon Musk.
Tournons-nous tous vers nos présidents, notre président français, puis le président anglais, allemand, américain. Est-ce que vous êtes prêts à mettre... On va parler de 300 milliards à peu près, des sommes colossales pour explorer Mars. On pense qu'il faut le faire, hein, pour, il faut, et c'est important. Est-ce que pour envoyer quelqu'un mourir, non, c'est même pas éthique. Donc, tout aller habiter sera un aller-retour. Alors que nos sondes, effectivement, nos sondes Curiosity, Opportunity, Maven, toutes celles InSight ne font que des allers simples. Pourquoi ? Parce qu'on n'a jamais su redécoller de Mars. Ben, il faut poser une fusée. Il faut poser une fusée sur Mars qui va revenir. Alors évidemment, même si la gravité n'est que d'un tiers de la Terre, c'est pas non plus le sixième qu'on a sur la Lune. Il faut quand même une fusée assez puissante pour redécoller. Et ça,
on l'a pas. Pour pouvoir rentrer, quoi.
Pour pouvoir rentrer. Et donc, de toutes ces étapes, la fusée pour décoller de la Terre, on l'a construite, les Américains la construisent, SpaceX s'y intéresse, etc. On pourrait imaginer. Le véhicule, on est en train de regarder comment faire un véhicule sur Mars. Un système de descente à la surface de Mars, on l'a pas. Un système de remontée, on l'a pas. Un système de retour, on n'a pas toutes ces pièces. Donc, pour revenir à la question, l'argent, on en aura besoin énormément. Hein. La volonté politique, évidemment. Le soutien des scientifiques, nous, on est là derrière en disant, c'est forcément de la bonne science. Une fois que l'homme y est, la science est encore plus belle, on va la faire. Voilà, le pôle se met en place. Est-ce que ça sera une collaboration internationale en disant, on s'y met tous ensemble ? Peut-être, comme la station spatiale par exemple, et on voit qu'au bout d'un moment, ça a tendance à s'essouffler, ou bien de la compétition, les Chinois disent « on y va ». Alors pourquoi les Américains disent ben voilà
ça et c'est... les Américains veulent plutôt faire en tout cas Donald Trump veut plutôt faire de la guerre spatiale que de l'exploration spatiale
sa vision de l'espace est un peu compliquée, je suis pas sûr de le suivre complètement. Ceci dit, très clairement, depuis 2-3 ans le paysage change un peu, la volonté d'aller sur Mars reste, un vol habité sur Mars reste une sorte d'objectif lointain pour notre civilisation, c'est vraiment à cette ce niveau que ça se joue.
Ça sera pas dans les 10 ans, quoi.
Ça sera pas dans les 10 ans, mais il faut le faire. C'est de la technologie qui se développe, c'est plein de choses. Mais ce qui vient de changer, c'est que pour aller vers Mars, eh bien, pourquoi, validant toutes ces technologies, on ne repasserait pas par la Lune? Et ça va être ça la grande nouveauté, je pense, du schéma qui se dessine en ce moment. Il faut repasser par la Lune. Vous savez que la Lune, c'était en 1969. Et l'année prochaine, on va célébrer les 50 ans du premier pas de l'homme sur la Lune.
Et est-ce qu'on est dans le même engouement, le même contexte?
Non, pas du tout. Le contexte est assez différent. La Lune, un des moteurs de l'exploration lunaire, la science était là, évidemment, mais c'était surtout la politique. C'était un conflit entre les Soviétiques et les Américains. On n'a pas ce schéma. C'était un moteur extraordinaire, hein, qui a permis aux Américains de gagner, alors que les Russes, les Soviétiques de l'époque avaient tout gagné. Hein. Ils avaient le premier homme dans l'espace, la première sortie, etc. Ils avaient tout fait. Les Américains ont gagné en marchant sur la Lune. Mais ce qui est intéressant, c'est que 50 ans après, on ne l'a pas refait. On ne sait pas le faire. Vous nous demandez aujourd'hui, vous avez l'argent, est-ce qu'on peut se poser sur la Lune ? Ils diront non. Alors c'est un peu étonnant, 50 ans après, parce qu'il faut tout réinventer. Il faut réinventer la fusée. On n'a plus le schéma de la fusée, on n'a plus rien. Il faut réinventer la fusée, réinventer l'approche avec une gestion du risque qui n'est certainement pas la même de l'époque. Les astronautes qui sont allés à l'époque, ils avaient vraiment un courage extraordinaire. Nos astronautes ont beaucoup de courage, mais il n'y a pas la même notion quand même de gestion des risques. Et donc il faut d'abord réapprendre à aller sur la Lune. Ça nous paraît important, d'une base lunaire ou circumlunaire, une base autour de la Lune ou dans ses environs, on pourra peut-être aller ensuite vers Mars, c'est un objectif un petit peu plus lointain.
Voilà, et il faut lointain dans tous les sens du terme, puisque vous nous parliez d'un voyage de 7 à 8 mois, donc il faut aussi bien sûr étudier les éventuels effets sur un organisme humain d'un vol aussi prolongé. Voilà, c'est ça hein, aussi
oui,
l'objectif.
Alors, effectivement, il faut emmener l'homme. Et l'homme est le maillon faible de cette histoire parce qu'il est fragile.
Fragile, et oui, merci beaucoup Sylvestre Maurice d'être venu nous le rappeler. Je rappelle que vous êtes astrophysicien, planétologue à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie de l'Université de Toulouse et du CNES, le Centre national d'études spatiales. Merci d'être venu nous faire rêver un petit peu ce matin.